Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et à 7h42, trop de querelles de personnes et pas assez d'idées en politique. Depuis que le mouvement des Gilets jaunes a éclaté, on évoque une décomposition de la scène politique, une recomposition possible. D'où l'idée aujourd'hui d'essayer de réfléchir sur les conséquences que pourrait avoir sur la gauche ce mouvement social. La gauche va-t-elle profiter de ce mouvement pour construire une unité, avec quel parti d'ailleurs, et surtout avec quelles idées et quelles bases? Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, Dominique Méda, que nous pouvions vous inviter, surtout si vous ne cassez pas le micro tout de suite. Il faut le remettre, ne cassez pas la maison de la radio, voilà. Vous avez réussi tant bien que mal à le remettre, mais peut-être que quelqu'un pourrait venir dans ce studio pour vous aider quand même à vous en sortir, voilà. Donc, on va parler de la gauche. En voyant comment elle peut être debout, puisque vous avez publié avec Éric Heyer, un économiste et un juriste, Pascal Lokiek, Une autre voie est possible, et c'est publié chez Flammarion. Quelles pourraient être les bases d'une alternative de gauche? C'est finalement ce que vous avez tenté de faire dans ce livre, et peut-être au travers d'ailleurs d'une initiative européenne, nous dire, Dominique Méda, en quoi celle-ci pourrait consister?
Alors, plusieurs choses. Ce qu'on explique dans ce livre, c'est qu'on s'est trompé depuis, alors certains disent 30 ans, 40 ans. On a mis en place des politiques économiques, notamment soutenues par les grandes institutions internationales et par la Commission européenne, des politiques à la fois de libre circulation des capitaux et de, on peut dire, d'austérité, mais aussi de désinflation compétitive, hein, c'est-à-dire modération salariale. Bref, tout un ensemble de politiques qui n'ont fait qu'organiser la compétition et la concurrence entre les pays, y compris à l'intérieur de l'Europe, et qui ont donné des résultats désastreux, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire quand même une partie de la population paupérisée, un emploi précaire, un travail intenable, insupportable. Donc, ce que nous prônons dans ce livre, c'est une rupture avec ces politiques. Alors, une double rupture. Rupture avec ce qu'on appelle le néolibéralisme. Bon, il y a de très belles analyses réalisées par Michel Foucault dans Naissance de la biopolitique sur ce que c'est que le néolibéralisme, en gros la préférence donnée au marché, l'absence d'intervention de l'État, même si l'État est là pour fixer un cadre et ensuite laisser se développer la concurrence. Et puis une deuxième série de ruptures, avec notamment notre fétichisme du PIB et de la croissance, je dirais. Et
donc, le PIB, donc le produit
intérieur brut.
Et donc, vous considérez, parce que ce qui est intéressant dans les prémices, c'est qu'en tout cas, elles rejoignent les premières revendications des Gilets jaunes, où il n'y a pas que cela, certes, dans le mouvement des Gilets jaunes, mais au départ, il y avait avant tout une revendication de hausse des salaires et du pouvoir d'achat, et une réponse, alors qui a été là aussi assez variable en fonction donc de la période. Mais l'une des idées générales, Dominique Méda, consiste à dire que la modération salariale est la racine de la productivité, de la compétitivité de l'industrie française. En somme, que l'on ne peut pas augmenter les salaires. À cela, que répondez-vous?
Alors, il y a des tas de débats économiques sur cette question depuis très 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 longtemps. L'idée qu'il faudrait modérer les salaires et d'une manière générale réduire les protections, protection sociale, protection de l'emploi, c'est une idée qui est portée par l'OCDE, par exemple, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est une organisation internationale qui a fait beaucoup de recommandations et qui a eu beaucoup d'influence, qui rassemble les pays les plus riches, hein, depuis, on va dire, la fin des années 80. L'idée, c'est pays développés, vous entrez dans la mondialisation, dans la globalisation. Si vous voulez conserver votre place, alors il va falloir être beaucoup plus flexible, permettre à vos entreprises d'être plus compétitives, et donc réduire la protection sociale et la protection de l'emploi. C'est quoi la protection de l'emploi? C'est l'ensemble des dispositifs qui organisent l'embauche et le licenciement. Donc, trop de difficultés, trop de difficultés pour se séparer d'un salarié, ça c'est pas bon. Ces idées se sont répandues dans le monde entier et ont été, il y a eu, si vous voulez, une dialectique complice entre un certain courant économique, le mainstream, et ces organisations internationales. La Commission européenne a repris tout ça avec les affaires de grandes orientations de politique économique. Bref, et nous sommes entrés avant la crise de 2008, mais aussi après, dans une série de jeux de dupes où chaque pays s'est amusé à baisser ses protections pour tailler des croupières aux autres.
Alors là aussi, à cela, on vous répond, Dominique Méda, que cette politique économique, elle a réussi à certains pays, je pense notamment à l'Allemagne,
bien sûr,
et que les autres pays, la France, mais aussi les pays du sud de l'Europe, n'ont qu'à faire comme en Allemagne.
Tout à fait. Alors, on passe beaucoup de temps dans notre bouquin à revenir sur le modèle allemand. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Lorsque vous vous souvenez, l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe en 2002. Schröder était au pouvoir. Schröder était un social-démocrate. Et donc, décide à un moment qu'il faut changer de cap, justement, et décide de mettre en place des réformes extrêmement importantes sur la gestion du marché du travail, la fusion de l'allocation de chômage et de l'aide sociale, pour, en gros, si je vais vite, obliger, ouvrir un vaste secteur à bas salaire et obliger les chômeurs à reprendre ces emplois. Toute une série de réformes. Or, et puis, très forte modération salariale. Alors, ça réussit très bien à l'Allemagne, bien sûr. Et donc, très très vite, elle va tailler des croupières à ses voisins. Mais vous voyez que c'est une politique complètement non coopérative. Elle fait ça toute seule. Elle fait ça en plus à un moment très intéressant où il y a de la croissance un peu partout, donc elle peut aller chercher la croissance, elle va développer ses exportations, elle va pouvoir du coup améliorer la qualité de ses produits, cercle vertueux. Et pendant ce temps-là, les autres pays, c'est à leur dépens, les autres pays européens, c'est à leur dépens que tout ça va se faire. Donc qu'est-ce qui va se passer après? Bien sûr, l'Allemagne va s'en tirer, c'est-à-dire elle affiche aujourd'hui des taux de chômage spectaculaires, des taux de pauvreté spectaculairement bas, tout à fait, 3,9, des taux de pauvreté plus élevés. Et le problème, mais c'est qu'après, tous les pays européens ont suivi. L'Italie a fait son Job Act.
Mais alors pourquoi ça ne marche pas?
Mais parce que, si vous voulez, si tout le monde le fait, ça ne peut pas marcher. Donc, on s'est amusé à se poursuivre les uns des autres dans cette logique mortifère de désinflation compétitive, plus les
politiques d'austérité. La désinflation compétitive, il faut...
C'est de la modération salariale, en effet. Et donc, peu à peu, l'Allemagne l'a fait, mais l'Italie l'a fait, l'Espagne l'a fait, la France l'a fait. Toute une série de mesures en France ont été dans cette direction. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut absolument arrêter avec ces politiques-là et il faut retrouver de la coopération en Europe.
Mais alors, justement, parce que vous dites que finalement, ces politiques, elles n'ont réussi qu'en Allemagne parce que l'Allemagne l'a fait en étant cavalier seul. Si la France décidait, cavalier seul, de faire tout autre chose, qu'est-ce qui l'adviendrait dans notre pays, Dominique Méda?
Alors, si on se demande maintenant ce qu'on pourrait faire, nous, un de nos fétiches, une de nos grandes idées, c'est qu'il faut absolument relancer l'investissement en France. L'investissement public, qui a considérablement baissé ces 10 dernières années, et qu'il faut le faire de façon sélective, non pas tous azimuts pour relancer la croissance, parce que on ne pense pas que cet indicateur, donc du produit intérieur brut soit majeur, mais relancer de façon sélective l'activité. C'est-à-dire faire un investissement massif, notamment dans la transition écologique. Transition écologique, et quand on dit ça, on pense aussi sociale, bien sûr. C'est-à-dire accompagner les grands mouvements qui seront entraînés par cette transition écologique. Il faut au moins, c'est ce qu'on a calculé, repris aussi des études existantes, il faut au moins 20 milliards par an. C'est absolument pas prévu par le président de la République avait parlé d'un grand plan d'investissement de 57 milliards lorsqu'il est arrivé, mais on n'en a plus entendu parler. Après, on a entendu 15 milliards dans la formation, mais bon, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut 20 milliards dans la transition écologique et beaucoup d'autres secteurs, le logement, l'éducation, etc. Alors vous allez me dire, ah, mais on est coincé par les règles européennes.
J'allais vous en parler. Évidemment, il y avait une augmentation de 20 milliards du budget de l'État, assortie d'ailleurs aux 10 milliards qui ont été a priori accordés à l'issue donc de la première phase de la crise des Gilets jaunes. On a déjà un déficit qui est largement supérieur à ce qui est autorisé. Que faire dans ces conditions, Dominique Méda?
Alors, petit 1, le déficit n'est pas si méchant que ça. Enfin, avant, les mesures à 10 milliards n'étaient pas si méchants, puisque dans notre déficit, il y a le doublement du CICE. Je rentre pas dans le détail, mais en gros, on a à la fois un crédit d'impôt de 20 milliards plus la baisse de cotisation cette année, donc autre 20 milliards, 40 milliards.
Donc la Commission européenne a considéré qu'il y avait un déficit exceptionnel qui ne rentrait pas en compte.
Voilà. Donc le vrai déficit, on va dire, il n'était pas si méchant. Et par ailleurs, c'est une autre de nos propositions, et c'est une proposition qui évidemment peut rassembler la gauche et les écologistes, qui consiste à dire qu'il faut absolument revoir les règles budgétaires en Europe, parce qu'il est évident que les politiques menées ou suscitées en Europe sont en partie la cause des problèmes dans lesquels on se trouve, avec avec ses critères de Maastricht ou ses critères du pacte de stabilité et de croissance. Donc nous pensons que aucune de ces indicateurs, le fameux 3% et le fameux 60% ne sont de bons indicateurs, qu'il faut sinon les renégocier, du moins aboutir au fait que on peut s'accorder un déficit de fonctionnement sur un cycle économique et pas sur une seule année. Et par ailleurs, il faut sortir du déficit public, du calcul du solde du déficit public, l'ensemble des investissements pour l'avenir. Et notamment les investissements pour la transition écologique.
Mais sauf qu'il faut quand même les financer.
Bah oui, bien sûr.
Mais alors, donc si vous les financez, il y aura une dette qui pèsera, elle pèsera au moins sur une partie des Français. Je ne sais pas comment vous souhaitez financer cette dette, mais si on met de côté, disons, les normes purement comptables de Bruxelles, il reste malgré tout un problème de financement, c'est-à-dire que si l'on investit pour l'avenir, que ces investissements soient judicieux ou pas, on peut espérer qu'ils soient judicieux, mais de toute façon, cela va peser sur
la
fiscalité française.
Tout à fait.
Dans ces conditions... Que pouvez-vous imaginer, Dominique Méda, pour que cela ne réduise pas la croissance? Puisque là aussi, l'argument classique consiste à dire si vous avez de la dette, vous allez avoir des ponctions supplémentaires et donc une moindre compétitivité.
Tout à fait. Alors, on traite ça aussi, et notamment mon camarade économiste Eric Ayer dans le bouquin. L'idée, c'est qu'on peut tout à fait continuer à augmenter la dette et repasser une partie de la dette à nos enfants. Parce que vous savez, on dit toujours, oh là là, il faut absolument pas passer la dette à nos enfants parce que ce serait très méchant. Mais non, si en contrepartie de cette dette, nous leur construisons une nouvelle société avec fondée sur des énergies renouvelables, qu'ils n'ont plus besoin d'importer de pétrole, qu'ils n'ont plus besoin de chauffer leur logement parce qu'on aura fait un grand programme de rénovation thermique, alors ça n'a aucune importance de leur laisser une partie de cette dette.
Voilà.
Donc non mais cette histoire de dette est extrêmement importante parce que bon j'ai des collègues sociologues aussi, je pense à Benjamin Lemoine qui a beaucoup écrit sur la rhétorique de la dette, hein, la manière dont on a fait peur aux gens avec la dette. Non, et puis on a des actifs aussi en France. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de risque que l'on soit comme on l'a entendu souvent ces dernières années tapé par les marchés financiers parce que notre dette serait trop importante.
Donc ça c'est le programme de grands travaux, je mets ça entre guillemets que vous pourriez préconiser, Dominique Méda.
Ouais.
Il reste la question qui n'est pas une mince question, qui est la question de la modération salariale, puisqu'il y a aujourd'hui une demande de la part donc de tous ceux qui sont dans la rue avec les gilets jaunes ou qui sympathisent avec cette cause, une demande d'augmentation du pouvoir d'achat, une demande d'ailleurs qui ne pèse pas trop sur le MEDEF, puisque finalement ça n'est pas tant le MEDEF qui a été appelé en responsabilité par les gilets jaunes, mais plutôt l'État. Que faire de cette demande et quand pourrait-il y avoir une augmentation des salaires, à la fois des fonctionnaires et des salariés du privé?
Alors, là encore, hein, sur la question des salaires, il y a beaucoup de débats économiques. Et vous savez, enfin, un des problèmes de toutes ces dernières années, c'est que c'est imposé une sorte de pensée unique, y compris par exemple à Bercy, mais que partageaient droite et gauche, et je pense que ça explique en partie l'impression de trahison qu'il y a eu à l'égard de la gauche, c'est que tout le monde s'est mis à reprendre la même étude. Vous savez, il y a une étude de la DARES il y a très longtemps qui montrait que on allait, si on augmentait le SMIC, un certain nombre d'emplois allaient être détruits. Or, et elles ont été reprises en boucle, ces études. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que, petit 1, il faut remettre cette question sur le tapis. C'est-à-dire, est-ce que vraiment toute augmentation de salaire risque d'entraîner des destructions d'emplois, comme on l'entend aujourd'hui? Il y a des économistes hétérodoxes, qu'on n'entend pas beaucoup, qui vous disent le contraire, qui vous disent qu'on peut tout à fait augmenter un peu les salaires. Après, cette revendication d'augmentation des salaires, elle est quand même tout à fait légitime, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'en effet, un certain nombre de personnes ne peuvent pas vivre avec les salaires qu'ils ont. Et je regardais bien sûr tout ce qui se raconte parmi les gilets jaunes, à Commercy, etc.
Commercy, c'est
donc une petite ville de la Meuse dans laquelle se sont réunis les gilets jaunes et dans laquelle il y a aussi une assemblée des assemblées des gilets jaunes. Et si vous voulez, le fait qu'il y ait des travailleurs pauvres, ça leur apparaît comme un véritable scandale. Et ça peut apparaître aussi comme un véritable scandale à notre gouvernement, puisque ce qu'on dit, c'est qu'il faut que le travail paye. Mais pour que le travail paye, alors il n'y a pas que l'augmentation des salaires aussi. Il y a aussi le fait qu'il faut sortir de tous ces petits temps partiels, de tous ces contrats courts. C'est une question qui est au cœur de la négociation là, sur l'assurance chômage. Hein. On a énormément de contrats très courts, avec des gens qui font un contrat de quelques jours, puis qui repartent. Donc, il faut aussi reconstruire notre marché du travail pour sortir non seulement des contrats courts, mais aussi de cette ubérisation, c'est-à-dire de ces auto-entrepreneurs qui n'arrivent pas à gagner suffisamment d'argent, ils ont besoin de travailler 70 heures par semaine. Bref, il faut reconstruire notre marché du travail.
Mais alors, cette question justement des contrats courts, bref, de tous ces contrats qui sont finalement des variables d'ajustement par rapport donc à l'évolution des plans de charge des entreprises, on dit parfois, Dominique Méda, que c'est la conséquence d'un deal, autrement dit d'un accord qui a été fait par exemple au moment des 35 heures. C'est-à-dire que la gauche a institué les 35 heures en échange de quoi il y a eu plus de flexibilité par exemple sur les horaires, sur les contrats, bref, tout ceci serait en quelque sorte au passif. Aujourd'hui, des 35 heures, vous faites non de la tête, vous n'avez pas du tout l'air d'être d'accord.
je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment des 35 heures, il y a eu deux lois. Il y a eu la loi Aubry 1 qui proposait aux entreprises de le réduire le temps de travail, mais de le réduire vraiment, c'est-à-dire sans sucrer les pauses et tout ça, et en contrepartie de création d'emplois. Il fallait créer des emplois pour avoir les aides. Et puis il y a eu la loi Aubry 2, après, on est obligé de le rappeler, hein, un énorme lobbying du MEDEF, et qui a donné lieu à la suppression de cette nécessaire contrepartie. C'est-à-dire, on avait l'aide, même si on ne créait pas d'emplois, et même si on réduisait n'importe comment le temps de travail. C'est-à-dire, je vous disais, en sucrant des pauses, etc. C'est-à-dire pas en le réduisant réellement. Donc, c'est vrai que le travail s'est flexibilisé, une partie du travail, une partie de l'emploi, après les 35 heures, mais c'était pas tout à fait ce qui était recherché. En revanche, mais je reviens là-dessus, ce qui me paraît très important si on veut penser à un programme de gauche, et Olivier Faure a commencé à faire l'inventaire samedi, hein, ou vendredi, je ne sais plus, le 28 janvier, il faut vraiment qu'on s'interroge sur ce que la gauche pense du salariat, du marché du travail, parce que la gauche n'a pas été claire sur ces questions-là. Par exemple, depuis...
Samedi, Olivier Faure ne l'a pas été beaucoup plus.
Moi, je suis d'accord. Je trouve qu'il n'a pas été assez loin dans son droit d'inventaire, en quelque sorte. Parce que, par exemple, ce qu'il dit sur le CICE, hein, le CICE, c'est quand même une mesure tout à fait extraordinaire. Crédit d'impôt compétitivité emploi. Donc, on donne 20 milliards aux entreprises sous forme de crédit d'impôt. Et quand on regarde les évaluations de cette mesure, on s'aperçoit que ça n'a quasiment pas créé d'emploi, que ça leur a juste permis de reconstituer leur marge. Ce qui est quand même un tout petit peu embêtant. Voilà, donc que pense la gauche de tout ça et sur quoi peut-on s'accorder? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas sortir des questions d'allègement du coût du travail, etc., etc.
Dominique Méda, une autre voie est possible, c'est le livre que vous avez publié avec Éric Heyer et Pascal Lokiek aux éditions Flammarion. Dans une vingtaine de minutes, vous serez rejointe par l'historien Nicolas Delalande. Il a beaucoup réfléchi à la question de l'impôt en France et des solidarités ouvrières. 8h20, suite des matins, la gauche pourrait-elle profiter du mouvement social des Gilets jaunes pour revenir sur le devant de la scène? Nous sommes en compagnie de la sociologue du travail Dominique Méda. Vous avez publié, Dominique Méda, avec Éric Heyer et Pascal Lokiek, Une autre voie est possible aux éditions Flammarion. Et nous accueillons l'historien Nicolas Delalande. Bonjour, vous êtes spécialiste des formes de résistance à l'impôt et le mouvement des Gilets jaunes évoque très largement la question des impôts. Et puis, vous avez également beaucoup réfléchi aux solidarités ouvrières. Vous publiez d'ailleurs un ouvrage aux éditions du Seuil qui s'intitule « La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières ». Et c'est la raison pour laquelle, Nicolas Delalande, j'aurais aimé avoir votre point de vue sur ce mouvement des Gilets jaunes.
C'est difficile d'avoir un point de vue unique sur un mouvement aussi protéiforme et sur lequel on a aussi et autant discuté depuis 3 mois. Et donc je me garderai bien d'avoir un point de vue définitif sur le sens que je vois ou l'interprétation que je donnerai de ce mouvement. Son point de départ, ça a été rappelé des milliers, des centaines de fois depuis 3 mois, c'est bien sûr une opposition à une taxe sur le carbone qui depuis a été retirée. Et le propre des soulèvements, des mobilisations qui prennent pour point de départ l'opposition à un impôt, c'est bien sûr d'agréger, d'amalgamer des positions qui sont très variées, parce qu'on peut dans ces mouvements-là être hostile à l'impôt en tant que tel, et il est vrai qu'au cours des décennies précédentes, les mouvements d'opposition à l'impôt étaient souvent nourris par un rejet du principe même de la fiscalité et pouvait déboucher sur des offres politiques qui étaient plutôt anti-redistributionnistes. Mais ce qui a frappé dans l'évolution du mouvement, de ses revendications, à la fin du mois de novembre, au début du mois de décembre, c'était le fait que cette revendication de justice fiscale, elle s'orientait positivement vers une demande de davantage justement de redistribution, de progressivité, une valorisation des outils de redistribution qui ont constitué un peu le socle du modèle français, puis plus largement européen au cours du XXe siècle. Donc les deux dimensions sont toujours présentes et le mouvement lui-même, il est tiraillé par ces tensions. Donc si vous voulez, c'est pas de l'extérieur qu'on va dire le mouvement doit déboucher dans cette orientation-là, donc c'est pas de savoir qui va profiter du mouvement, mais finalement ces acteurs eux-mêmes, c'est ça qui est intéressant, ils étaient autonomes et ils débattent de ces questions-là. Et ils se réapproprient des outils. Et le fait que, là, ça a surpris beaucoup de commentateurs. Très rapidement, l'ISF devient un tel point symbolique, hein, et qui est devenu le point de crispation. C'est-à-dire qu'on imagine que si...
Qu'est-ce que ça suggère pour vous, Nicolas Delalande? Et vous observez notre rapport aux impôts depuis longtemps. Le fait qu'il y ait donc le refus d'une taxe, alors en l'occurrence, une taxe sur le gasoil, et puis une demande de l'ISF. Est-ce que finalement cette demande, c'est le fait que les riches payent des impôts, si les autres, ou bien est-ce que c'est une question qui relève plus d'un sentiment de justice fiscale ?
La justice fiscale, elle est liée au fait que chacun contribue à sa juste mesure. L'idée de la progressivité, elle a été, c'était une vraie révolution du début du XXe siècle. Lorsqu'on a introduit la progressivité dans notre système d'imposition, c'est vrai en France, c'est vrai dans beaucoup de pays, ça a été une façon de renégocier en fait le contrat social et de justement d'imaginer des formes de participation commune, collective. Auparavant,
c'était quoi ?
Les plus aisés, la fiscalité était essentiellement proportionnelle. Hein, c'est ce que certains préconisent aujourd'hui, c'est d'avoir un taux unique, c'est ce qu'on appelle la flat tax dans le monde anglo-saxon, et surtout les contributions était très limitée, très modique, parce que aussi le niveau des services publics qui étaient offerts était relativement limité. La grande rupture du XXe siècle, c'est des demandes en faveur de la redistribution, de la justice sociale, et puis aussi le choc des guerres. Il n'y aurait pas eu de redistribution, les riches n'auraient pas payé davantage, n'auraient pas été plus solidaires s'il n'y avait pas eu ces grandes épreuves qui ont conduit à des transformations majeures et profondes en 14-18 et en 39-45. Donc dans cette revendication-là, il y a aussi l'idée que depuis 30 à 40 ans, j'écoutais le début de l'émission, à côté du discours valorisant en permanence la réforme du marché du travail, la baisse des charges ou autre, il y a aussi une critique des impôts progressifs comme quelque chose qui était finalement, qui allait désinciter l'investissement, l'énergie collective, donner des signaux mauvais à l'ensemble des investisseurs. Et donc je pense que ce mouvement-là, c'est aussi un moment où apparaît finalement la volonté de réhabiliter, de se réapproprier des instruments qui font partie de la manière dont on construit une société qui est à peu près commensurable, c'est-à-dire que les groupes sociaux puissent avoir le sentiment de participer au même monde, d'avoir des formes de vie qui ne vont pas être identiques, mais en tout cas où l'inégalité n'est pas structurellement inscrite et redoublée, renforcée par l'appareil de redistribution qui est mis en place par l'État.
Ce discours d'hostilité aux impôts qui considère que finalement les impôts vont être désincitatifs pour ceux qui produisent des richesses, il demeure d'ailleurs en partie en France. Il est encore soutenu, il justifie par exemple le non-retour de l'ISF. Non, c'est pas votre point de vue ?
Il est soutenu par ceux qui considèrent qu'effectivement il faut s'en tenir à cette mesure, mais je pense que ce qui est apparu à tout le monde, et là je ne serais pas le seul à le dire, au cours des 3 derniers mois, c'est que cette valorisation par le fameux discours des premiers de cordée ou autres, pour le coup a rencontré une très franche opposition, et donc on est encore dans cette situation-là.
Votre point de vue, Dominique Méda.
J'ai beaucoup suivi comme tout le monde, hein, parce que c'est vraiment passionnant ce qui se passe, beaucoup suivi les gilets jaunes de Commercy. Et je sais pas si vous avez vu, Mediapart a suivi pendant 3 heures une grande réunion.
Il faut rappeler, donc, alors c'est une partie des gilets jaunes qui se sont réunis dans cette petite ville de la Meuse.
Commercy, il y a eu un gros rassemblement de gilets jaunes, ils ont construit une cabane en plein centre-ville, et ils ont organisé récemment, les 26 et 27 janvier, une assemblée des assemblées des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'ils ont lancé un appel sur leur leur réseau pour que chaque délégation, enfin pour que chaque groupe de Gilets jaunes envoie une délégation à Commercy. Ils se sont tous rassemblés. Alors, ce qui m'a énormément intéressée dans tout ce qu'ils racontent, parce qu'ils sont interviewés très, très longuement, c'est vraiment deux choses. Hein. D'une part, le rejet massif de la politique. Alors, quelquefois, ils disent, bien sûr, on est pour la politique au sens noble, mais globalement, la politique égale les politiciens et on rejette aussi massivement la droite et la gauche, et notamment la gauche quand même. Voilà. Et puis la deuxième chose quand même, c'est la réinvention de la démocratie, c'est-à-dire on vote tout, la parité partout, quand on envoie, tout est voté, tout est discuté, et autre chose aussi, l'importance de la solidarité. Ils n'avaient que ce mot-là à la bouche, la solidarité, la redistribution des richesses. Donc je trouve que là, il se passe quelque chose d'extrêmement important, intéressant.
Votre point de vue, Nicolas Delalande, vous qui justement avez réfléchi à la question des solidarités ouvrières.
Oui, dans le livre que je publie ces jours-ci, La lutte et l'entraide, je reviens justement sur la genèse du mouvement ouvrier, lorsqu'il est né à la fin du 19e siècle, et où justement cette question de la solidarité, de la démocratie exercée par en bas, dans les associations, dans les syndicats, a été cruciale dans l'émergence d'un mouvement fort à l'échelle européenne, et qui a joué un rôle considérable tout au long du 20e siècle. Ce dont on parle, c'est aujourd'hui la possibilité d'imaginer effectivement qu'on puisse, par exemple, réguler le capitalisme, adopter des mesures de justice sociale, de redistribution. Ça n'aurait pas été possible au XXe siècle s'il n'y avait pas eu des forces sociales organisées, et notamment un mouvement ouvrier puissant, puisque le capitalisme ne s'est pas réformé tout seul, il s'est réformé dans des situations de crise, et aussi parce qu'il y a eu des acteurs collectifs qui ont manifesté, qui ont fait grève, il y a eu toute une culture de la mobilisation qui a joué dans cette genèse-là. Et ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est effectivement une nouvelle forme d'action collective, mais qui n'est pas complètement inédite. Le fait que des mouvements soient confrontés justement à la question de quels objectifs ils veulent se donner, comment ils fonctionnent, comment ils s'organisent, c'était vraiment l'expérience propre des mouvements ouvriers des années 1860-1870, qui avait une singularité, sur laquelle j'insiste dans mon livre, c'est qu'ils se pensaient dès l'époque dans un cadre européen et international. L'origine de l'internationalisme ouvrier, c'est de penser que la réponse à la question sociale, la réponse à la, justement aussi à une demande de démocratie, elle doit aussi transcender les frontières, et c'est ce que essayent d'inventer les militants à cette époque-là.
Mais alors, justement, comment on conjugue cela avec une certaine forme de protectionnisme ou de protection qui est demandée par les travailleurs? Alors, bien souvent, on considère qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que les multinationales sont par nature transnationales, alors que les solidarités ouvrières, elles seraient nationales et parfois même repliées sur le cadre national. Nicolas Delalande.
Oui, ça, c'est une vision étriquée, c'est une vision très, très récente, parce que ce que je montre dans le livre, c'est que la principale composante sociale avisée internationale ou internationaliste à la fin du 19e siècle et pendant une longue partie du 20e siècle, c'est le mouvement ouvrier précisément. Le point de départ de la création, par exemple, de la première internationale en 1864, c'est de justement constater le grand déséquilibre qui existe entre la capacité des forces du capital à s'organiser à une échelle internationale et effectivement le localisme des luttes sociales. Et l'argument qu'ils utilisent, c'est que pour être efficace, la mobilisation ouvrière, justement, elle doit dépasser le simple enracinement local, et les solidarités, elles doivent se construire dans des espaces qui transcendent l'espace proprement national, notamment parce que ces mouvements sont dès le départ attachés à la mobilité ouvrière, la mobilité des travailleurs. Donc la grande question qui se pose, qui est aussi la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on associe la libre mobilité des travailleurs avec la défense de la protection sociale, une mobilité qui se fait au service et au bénéfice de tous, et pas seulement avec un rétrécissement ou une diminution des protections accordées aux travailleurs.
Dominique Médard.
Oui, deux choses. D'une part, je reviens sur toujours ces mêmes gilets jaunes de Commercy, ce qui m'a aussi énormément intéressé, c'est qu'ils vont chercher, ils savent que eux expriment des points de vue qui ne sont pas souvent reliés ou exprimés, et ce qu'ils disent, c'est mais on sait bien que nous, on n'est pas les plus éloignés de la parole. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher, on va dans les quartiers, on fait du porte-à-porte et on va chercher les revendications de ceux qui ne parlent pas du tout, sont complètement sans voix. Ça, c'est très intéressant. Et pour répondre à votre question sur les solidarités, on a quand même un organe qui était censé accompagner les solidarités ouvrières dans le monde entier et instaurer, Alain Supiot, le juriste, aime beaucoup cette phrase, un régime de travail réellement humain. C'est l'Organisation Internationale du Travail qui fête cette année, hein, 2019, son centenaire, créé en 1919. Pourquoi faire sur l'idée qu'une paix universelle et durable ne peut pas s'asseoir sur l'injustice. Et toujours ce même préambule, hein, en 1919, au sortir de la guerre, eh bien, si les conditions de travail sont mauvaises, alors on aura la guerre. Et si on veut un régime de travail réellement humain, il faut pas de dumping social. Et pour éviter le dumping social, il faut des conventions internationales. Et voilà, or l'OIT n'a pas réussi à faire ça.
Mais alors, justement, quand on étudie ces luttes, Nicolas Delalande, est-ce que l'on a affaire à des luttes qui sont ou bien des luttes réformistes, c'est-à-dire il s'agit d'aménager le capitalisme pour que celui-ci soit plus vivable, pour qu'il y ait en quelque sorte une meilleure répartition des richesses, un meilleur partage de la valeur ajoutée, ou bien une rupture avec ce capitalisme? Qu'est-ce que vous observez?
Il y a plusieurs âges de l'émancipation ouvrière. Avant 1914, avant la Première Guerre mondiale, les ouvriers sur lesquels j'ai travaillé pendant longtemps, en fait, sont assez rétifs à l'intervention de l'État. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'émancipation, elle doit se construire par l'autonomie ouvrière. Et l'idée de la lutte contre la concurrence, elle doit émaner de la capacité des proto-syndicats, des premières chambres syndicales, à se coordonner, à s'associer, justement pour éviter que les ouvriers jouent les uns contre les autres. Et donc il y a cette idée que, avant même d'attendre des institutions qu'elles résolvent les problèmes, il faut finalement retrouver les vertus, et faire inventer les vertus d'une action collective qui permettent, notamment en coordonnant les grèves, la grande revendication du mouvement ouvrier jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est la journée de 8 heures. Mmh. On demande la journée de 8 heures et on le fait à l'échelle internationale. C'est tous les mouvements situés à la gauche du spectre politique de 1889 jusqu'à la Première Guerre mondiale font de cette revendication leur principale revendication. Donc il y a un mot d'ordre commun, il y a une vision sociale commune. Ce qui se passe lorsqu'est créé l'OIT en 1919, c'est justement que finalement, cette revendication, ce mouvement, il est aussi intégré à une échelle internationale, c'est tout le projet de la Société des Nations, et les syndicats dits réformistes vont y participer, c'est une institution tripartite, l'OIT, elle associe les syndicats, les patrons et les représentants des gouvernements, bien sûr, va continuer de coexister au sein des cultures de gauche tout au long du XXe siècle, une visée plus réformiste ou une visée plus révolutionnaire. Donc en fait, je ne peux pas vous répondre, c'est l'un ou l'autre, puisqu'en réalité, ça a été, et c'est même la singularité, en fait, des cultures de gauche depuis les années 1860-70, d'être tiraillé en permanence par ces diverses aspirations.
Et alors justement, ce que vous observez aujourd'hui, alors si on regarde cette fois-ci la scène partisane, avant de regarder le mouvement social en cours, est-ce que la scène partisane, elle vous semble à gauche, en quelque sorte acquise à la social-démocratie, ou bien y a-t-il des velléités de rupture avec le système? Qu'est-ce que vous diriez de cela, Nicolas Delalande?
On parlait de la gauche aujourd'hui en France, vous savez que et en Europe, c'est devenu, on parle un peu d'un absent, donc je peux décider quand même
il y a
des partis qui sont très fragilisés, tout le monde a pu l'observer. À mon avis, il y a effectivement, et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi orienté ce livre dans cette perspective-là, il y a une fausse prémisse en fait qui aujourd'hui nourrit notre débat politique, c'est l'opposition entre effectivement le protectionnisme qui serait forcément un repli sur un cadre national, récupérer sa souveraineté, sa capacité d'agir, ça serait justement finalement de se protéger de l'extérieur, et puis de l'autre côté, les élites mondialisées qui sont les seules à profiter et à s'inscrire dans ce monde ouvert, ce monde de circulation, dans ce monde ouvert à l'autre. Ce que j'essaye de montrer dans le livre, en fait, c'est que la gauche, elle s'est nourrie dès le départ, au contraire, de l'idée que les classes populaires, les classes ouvrières, elles-mêmes aussi avaient leur rôle à jouer dans cette économie-là, ouverte. Et les premiers groupes qui migrent à la fin du XXe siècle et au début du XXe siècle, c'est des ouvriers, c'est des gens issus des milieux populaires, c'est pas les plus aisés. Bien sûr, les plus aisés peuvent toujours circuler, peuvent toujours migrer. Mais une des identités fortes de ce courant-là, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'était d'être ouvert à la mobilité. Donc je pense qu'un des enjeux pour la gauche aujourd'hui, c'est justement de concevoir, de bâtir des solidarités, non pas seulement sur le repli, parce qu'on voit, c'est aussi bien sûr des expériences qui ont cours aujourd'hui, mais sur une possibilité de coordonner, d'avoir des programmes qui transcendent les frontières. C'est le grand échec en réalité de l'Union Européenne depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on a cessé bien sûr d'appeler à cette Europe sociale qui n'existe pas et qui au contraire a été perçue à juste titre comme fragilisant beaucoup de protections collectives.
Dominique Méda, sur l'évolution de la scène partisane à gauche, que diriez-vous ?
Je dirais que le problème, en France, mais aussi en Europe, on a eu une évolution de la social-démocratie qui n'a pas été dans le sens que promeuvent les Gilets jaunes. C'est-à-dire que la gauche a accompagné ce qu'on appelle le néolibéralisme et la libéralisation des capitaux. Il y a un magnifique article d'un politiste américain qui s'appelle Rawi Abdelal, qui est publié en 2005, et qui montre comment ce sont les élites social-démocrates françaises, les socialistes français, qui ont poussé pour la libéralisation des capitaux, pour que toutes les barrières, en quelque sorte, soient abattues.
Mais alors, pourquoi l'auraient-ils fait, selon
Mais alors, ils l'ont fait, précisément, c'est la conclusion de l'article, très très intéressante. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient maîtriser, qu'on allait mieux maîtriser en libéralisant complètement et en mettant en place les institutions qui permettraient de contrôler. Or, ces institutions n'ont jamais rien contrôlé. Et je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure. Ça me faisait penser à la charte de la Havane en 1948. La charte de la Havane, elle tient en même temps la libéralisation du commerce, mais elle dit, attention, il faut que le commerce ait toujours à l'esprit, que les flux commerciaux respectent toujours la question de l'emploi. Donc, la question de l'emploi et du commerce sont tenus ensemble. Qui ne va pas ratifier? Les États-Unis, ils ne ratifient pas ça. Ce qui fait qu'après, on a une OMC qui s'occupe exclusivement du commerce et une OIT qui rame derrière et qui n'arrive pas à éviter le dumping social.
Nicolas Delalande, il y a quelque chose d'assez paradoxal dans le mouvement des Gilets jaunes. Alors, bien entendu, il est protéiforme, mais alors, d'un côté, il y a l'idée que l'on a à faire au retour de la lutte des classes. Ça a été dit, ça a été commenté. On avait cru qu'elle avait disparu. Non, elle n'a pas disparu. Elle est à nouveau là. Et il y a une revendication assez forte avec une forme de conflit social véritable, avec des formes de violence de part et d'autre. Bref, ça renvoie effectivement à l'histoire classique de la lutte des classes. Et puis, d'un autre côté, on a des demandes qui finalement s'inscrivent dans un cadre social démocrate, c'est-à-dire avec une évolution de l'impôt, une évolution de la Constitution. Bref, on n'a pas a priori affaire à un mouvement qui veut mettre à bas le capitalisme, la propriété privée. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de discussion sur la propriété privée. Vous qui suivez ces questions donc de lutte ouvrière depuis longtemps, qu'est-ce que ça suscite en vous? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez inédit que cette forme-là.
Alors, je dirais pas que c'est inédit. C'est-à-dire qu'effectivement, la dimension... je pense qu'il y a quand même des courants anticapitalistes. Il y a tout un nombre de slogans qu'on retrouve.
C'est protéiforme.
Cette version, elle est présente. Mais effectivement, il y a une contradiction de fond. C'est-à-dire qu'il y a une tension. C'est pas pour le mettre sur le, pour critiquer. Mais c'est-à-dire qu'il y a d'un côté une très forte dénonciation du système institutionnel, des élites, plus largement, hein, bien sûr, alors de la classe politique, de la corruption ou autre. Et puis, de l'autre, la demande d'une intervention, d'une protection, d'une régulation. Et je dirais que le dilemme qui est aujourd'hui posé, c'est justement comment on relégitime l'action publique. C'est-à-dire qu'on a besoin, on peut pas, et je pense que c'est inclus dans les propositions, on peut pas faire complètement sécession. C'est-à-dire que dès lors qu'on dit que l'impôt doit jouer un rôle de redistribution, il faut que cet impôt il soit légitime, que les personnes qui le décident, les personnes qui le collectent, les personnes qui le redistribuent soient aussi légitimes. Donc il y a un grand enjeu ici qui est fait, effectivement un enjeu démocratique et plus largement politique de rapport aux institutions, de relégitimation des instances collectives qui donnent du sens à la vie en société.
Mais oui, parce que alors on peut effectivement discuter l'impôt en tant que tel, c'est ce que fait par exemple Donald Trump. Pour lui, l'impôt est par nature mauvais, ou la manière dont il est réparti, et c'est plutôt la seconde option qui serait en cours dans cette gronde des Gilets jaunes, même si bien entendu elle est très hétéroclite.
Oui, mais il y a des mouvements au 19e siècle qui sont antérieurs par exemple à ceux sur lesquels je travaille dans les années 1860, qui ont étroitement lié la question de la dénonciation des inégalités, du favoritisme, on parle de parasitisme au 19e siècle, c'est le grand langage, avec la question de la réforme du système démocratique. Au 19e siècle, la grande revendication pour sortir de la crise, c'est de réclamer le suffrage universel. La singularité de notre période aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle désaffection, un tel désenchantement, que même le suffrage universel ne paraît pas suffisant. Donc on est sans doute à un autre âge démocratique, où on va valoriser la participation, la délibération, l'expression des voix multiples et une forme d'horizontalité. Mais on voit bien que le nœud, il reste le même qu'au XIXe siècle. C'est comment on articule un besoin nécessaire de forme de démocratie représentative, de délégation. On n'a pas de système institutionnel, de système public, d'État, de redistribution, de politique sociale, sans des formes de délégation, mais qui effectivement soit nourrie, abondée, relégitimée par des formes de participation beaucoup plus conséquentes.
Dominique Méda.
Oui, moi il me semble quand même que les revendications, alors il y a eu les 42 revendications au début, hein, des Gilets jaunes, on a vu aussi par exemple Marlène Schiappa et Cyril Hanouna tirer 7 points de revendications au terme de leur débat. Bref, on voit bien et on voit que ce qui est absolument central, c'est la lutte contre les inégalités et la justice sociale et fiscale. Et ça, si c'est pas des valeurs de gauche...
Qu'est-ce que la gauche? C'est la question que vous posez, Dominique Méda.
Donc, non, mais votre question qui est, qu'est-ce qui pourrait... Il devrait se passer des choses, en effet, entre la gauche et les Gilets jaunes. Des rencontres, des débats, la construction de... je ne dis pas d'un programme, mais voilà. Est-ce que la gauche est prête à reprendre telle et telle revendication? Et puis, je pense qu'il y a dans ce mouvement un énorme effet d'apprentissage. Ils le disent d'ailleurs eux-mêmes. Ils sont en train d'apprendre et ils trouvent ça formidable. Il y a une dimension d'éducation populaire. Donc, je pense qu'il y a un enjeu majeur pour la gauche et puis tous ceux qui veulent, quoi, à aller discuter avec les Gilets jaunes parce que... Et aller les... Alors, je ne vais pas dire leur donner des informations, c'est pas ça. Mais... En effet, leur apporter un certain nombre de connaissances, d'informations qui pourraient permettre la progression ensemble. C'est-à-dire, ils disent pas « nous sommes anticapitalistes et nous voulons ceci et cela », mais je pense qu'ils sont sur ce chemin.
Nicolas Delalande. Le grand problème aujourd'hui, c'est la question de l'adéquation entre les valeurs et la forme de l'action politique. Aujourd'hui, il y a une disjonction très forte. Si on dit, quand Dominique Ména dit la gauche devrait aller parler ou doit aller au devant des gilets jaunes, eh bien déjà de toute façon, on sait que la réaction instinctive, ça va être de contester la légitimité de ces acteurs, de les mettre sur le compte de formes anciennes, périmées, discréditées, délégitimées. C'est une question qui a là aussi a été constitutive de l'organisation des forces ouvrières social-démocrates à la fin du XIXe siècle. Les sociaux-démocrates, les socialistes, ceux qui sont inspirés notamment du marxisme, il y a quand même une idéologie derrière. C'est-à-dire une des grandes différences, c'est quelle est l'idéologie qu'on se donne pour orienter sa vision du monde. C'est-à-dire que c'est pas un gros mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que l'idéologie, c'est mal,
mais c'est une vision qui permet... Pas, mais est-ce que vous voyez une idéologie au sens d'un système global dans alors pas seulement le discours des Gilets jaunes, parce que là encore, le pluriel va poser problème, mais on a l'impression que la scène idéologique est très nettement fragmentée, qu'il n'y a plus en réalité de grands discours global, et donc que ce n'est pas véritablement cela que l'on voit revenir aujourd'hui, Nicolas Delalande.
Là où, évidemment, et ça ne concerne pas que les Gilets jaunes, il faut regarder l'ensemble des forces politiques et ailleurs qu'en France, il y a un déficit d'idéologie dans le sens de construction d'un projet intellectuel, philosophique, politique commun qui oriente le sens et qui donne, justement, ce qui revient souvent dans les débats du grand débat national ou aussi chez les Gilets jaunes, c'est l'idée qu'on ne voit plus très bien le sens de l'action collective, où voulons-nous aller ensemble. Et ça, on peut être très sceptique sur le 19e siècle, sur le 20e siècle, considérer que l'idéologie nous a conduit dans des travers horribles. C'est ce qui permet quand même d'unifier. C'est-à-dire, quand on parle de l'hétérogénéité d'un mouvement social, on dit, alors, ils sont de nature très différente, de gauche, de droite, violents, pas violents, etc., etc. Mais ce qui, à un moment donné, unifie des courants politiques, c'est un langage commun, c'est une vision commune du monde et de l'action tournée vers le futur. Donc c'est ça l'enjeu et c'est ça qui s'invente aussi dans les discussions qui ont lieu à la base et dans les rencontres. Et je pense qu'il faut aussi éviter de rester bien sûr dans l'entre-soi, c'est aussi dans la confrontation à d'autres milieux sociaux que peuvent se nourrir ces visions qui transcendent un peu les particularismes.
Moi, il me semble que le langage commun est là. C'est-à-dire, moi, il me semble qu'en effet, quel que soit leur rattachement idéologique, et il les refuse, la question de l'inégalité et de la justice est absolument centrale. Et ça va, évidemment, ça imprègne leurs revendications sur le référendum d'initiative populaire, mais citoyenne, mais aussi tout le reste, la réforme fiscale, etc. Donc, moi, il me semble que là, il y a une grammaire commune qu'ils portent et que ça pourrait être un formidable déclencheur pour les autres partis de se situer ou de revoir profondément ce qu'on appelle leur logiciel.
Et alors, justement, si on continue à prendre l'histoire de ces luttes ouvrières, il y a la classe qui est la classe antagoniste et cette classe, c'est la bourgeoisie. Et alors, là aussi, par rapport à ce discours des Gilets jaunes, alors on entend beaucoup de choses sur les actionnaires, sur la finance, bref, sur les différentes métaphores qui peuvent recouvrer tout ou partie de ce qu'on appelait jadis la bourgeoisie. Qu'est-ce qu'il y a comme constante et au contraire comme modification là-dedans, Nicolas Delalande?
Alors, il n'y a pas un discours... évidemment, j'ai pas consulté l'ensemble des pages Facebook du mouvement, mais ce qui a été relevé, c'est que notamment, il n'y a pas une hostilité de principe, de fond, prioritairement dirigé contre les entreprises, le patronat ou le capital.
Non.
On a vu que c'est les élites politiques, c'est les élites publiques, c'est une certaine vision donc de la déconnexion, de l'enrichissement, de la corruption, etc. Donc il y a pas de ce point de vue-là, il y a pas les soubassements d'une idéologie marxiste d'opposition, d'antagonisme entre le travail et le capital, entre les bourgeois et les prolétaires. Ça a été une question qui là aussi a été posée et s'est posée à des étapes antérieures du mouvement ouvrier, c'est-à-dire de considérer la possibilité ou pas d'avoir des formes d'action collective collectif qui soit autonome ou relié à des courants de la classe moyenne ou des courants de la classe bourgeoise. C'est le grand débat de la social-démocratie à la fin du XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle le débat du révisionnisme. Est-ce que pour accéder au pouvoir, est-ce que pour obtenir justement la création de formes de politique sociale, de redistribution, d'impôts sur le revenu, eh bien les grands partis ouvriéristes de l'époque, qui sont des forces sociales et politiques considérables, doivent ou non rechercher des alliances avec d'autres groupes sociaux. Et cette question, elle se posera parce que l'idée que effectivement on peut uniquement s'orienter selon des lignes de classe, de séparation, d'autonomie, finalement, bute malgré tout sur les réalités de systèmes politiques qui ont besoin de construire des coalitions plus larges et durables.
Dominique Médard.
C'est vrai que c'est une nouvelle catégorisation qui est très indépendante, très intéressante. Je veux dire, maintenant, on a d'un côté donc des salariés, des petits salariés, des salariés modestes, des travailleurs indépendants, notamment tous les travailleurs indépendants, faussement indépendants, auto-entrepreneurs, etc. Des petits patrons qui n'arrivent plus à s'en sortir, des agriculteurs, des retraités. Et là, on a quelque chose qui est en train de se constituer contre, en effet, la fraction haute du salariat ou des grands patrons.
Mais justement, on n'arrive pas à déterminer quelle est cette frange. Mais on n'arrive pas à voir quelle est la frange qui est visée. Alors, j'ai vu, par exemple, des phrases qui sont très métaphoriques, comme « ceux qui se gavent ». Mais alors, on n'arrive pas à comprendre s'il s'agit donc de la frange dominante des dominants, comme disait Bourdieu, ou si on a affaire aux politiques. Il y a une ambiguïté qui n'est jamais levée, Nicolas Delalleux.
Ouais, ça renvoie notamment au mouvement Occupy Wall Street qui avait eu lieu au début de la décennie. C'est finalement l'opposition schématiquement des 99% et du pourcent. Donc il y a effectivement on cible à la fois donc les vraiment, je pense une fine élite, celle qui, vous voyez, la figure de Carlos Ghosn a quand même suscité. Tout c'est-à-dire qu'il y a eu une concomitance qui était inespéré dans la manière dont le mouvement s'est constitué. Donc il y a ça. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'on y amalgame, je pense, aussi des élites politiques, administratives, qui, en termes de revenus, en fait, ne sont pas comparables à ça. On pourrait imaginer, mais pourquoi ce mouvement n'a pas pris pour cible les stars du football? C'est-à-dire, il y a aussi une partie des élites qui sont de plein pied dans cette extraordinaire expansion des inégalités, qui sont complètement laissées en dehors aussi du discours qui pourrait être encore plus large.
Oui. Un mot.
Intéressant aussi, le rapport Oxfam, 26 milliardaires qui gagnent autant que la moitié de l'humanité, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup répété dans le mouvement.
Dominique Méda, une autre voix est possible chez Flammarion avec Pascal Lokiek et Eric Heyer. Nicolas Delalande, la lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières, c'est aux éditions du Seuil.